Bonjour, c'est Stéphane Escher. Vous écoutez Pop, Pop, Pop. Pop, 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 c'est parti.
Popopienne, popopien et tous les autres aussi, bonjour. C'est aujourd'hui la journée mondiale de l'orgasme. La preuve, on reçoit Michel Gondry, dont les 10 épisodes de la série Kidding avec Jim Carrey seront diffusés la nuit de Noël sur Canal. Et je vous le dis tout de suite, vous pouvez, s'il en est encore temps, faire une belle économie sur le budget cadeau, vu que je ne vois rien de mieux. On va en reparler dans quelques instants avec l'intéressé, mais d'abord, deux mots sur cette fameuse journée mondiale de l'orgasme, donc, qui vient élégamment s'intercaler entre la journée mondiale de la prothèse dentaire et celle plus étrange du pull moche qui vient elle-même de fusionner avec celle du pull de Noël. La journée mondiale de l'orgasme tend à célébrer cet événement heureux, quoique trop rare dans la vie des hommes, enfin dans la mienne, mais aussi d'une manière générale de tout ce qui vit et respire sur notre terre bien-aimée. Et si, en entendant orgasme, nous pensons d'abord aux bipèdes, dont au sujet desquels nous appartenons, comme le dit si jolamment Francis Lalanne dans son poème « Si gilet est jaune », il ne faut pas oublier que le règne animal dans son ensemble, à l'exception notable de l'huître de marraine, jouit du même privilège. Tiens, par exemple, saviez-vous que les phoques, les bien-nommés, en dépit du froid polaire, connaissent eux aussi l'extase et qu'elle se manifeste de cette manière? Écoutez ce que ça donne. Eh oui, eh oui, elle est belle la vie. Vive les phoques, vive Michel Gondry, vive l'orgasme, et c'est parti.
France Inter. Pop, pop, pop. Antoine de Caunes.
À mes côtés, Charline Roux. Bonjour Charline Roux, ça va ?
Bonjour Antoine, oui, très bien, et vous ?
Oh, je vous trouve très sage. Bonjour Michel Gondry.
Bonjour Antoine.
Et bienvenue dans Pop Pop Pop, au menu également de Pop Pop Pop, un détour par la planète Transpi d'Étienne Carbonnier, un point pop sport avec Béatrice Edwige, une des handballeuses françaises championne d'Europe, et nous finirons cette émission avec un live du sosie de Robert De Niro dans Hit. Mais avant ça, Michel Gondry, avant de pouvoir passer une popper en notre compagnie, il faut répondre à une question que je vais volontairement vous poser après vous avoir diffusé un son stressant. Un son que les millennials connaissent bien car il est associé dans leur inconscient collectif à une marmotte qui se retourne dans une vidéo YouTube avec un regard flippant. Et cette question, c'est, pour vous, c'est quoi la pop culture ? Alors pour être totalement honnête, j'ai eu des réponses carabistouillantes, épiphénoménales, saltimbocantes, voire frituleuses. Et parmi mes préférées, il y a celle de Aïssa Maïga qui jouait dans L'écume des jours. Écoutez-la.
La pop culture, c'est à la fois le barmaid, le shaker et le cocktail.
Waouh !
C'est celui par lequel votre soirée n'aura jamais la même tonalité.
Waouh ! Ça me plaît beaucoup.
Elle l'avait préparé ?
Oui, évidemment.
Moi, j'ai rien préparé. Hein.
Bah alors justement, voyons ce que ça donne, vous qui n'avez rien préparé. C'est quoi pour vous la pop culture ?
Bah, moi, j'ai grandi dans la pop culture, donc c'est, pour moi, c'est ce qu'il y a autour de moi, ce qui m'a permis de gagner ma vie plutôt bien, sans avoir trop travaillé à l'école, parce que avec mes parents étaient dans la pop culture, et les enfants se sont retrouvés à la pop culture, et comme la société s'est retrouvée à la pop culture... Or, on était préparé à évoluer dans la pop culture. Bah, pop, c'est populaire, mais c'est quelque chose qu'on... C'est la suite du yéyé, quoi, en gros. C'est les pantalons en pattes d'éléphant. Et puis après, c'est devenu... c'est ce qui plaît à un grand nombre de personnes.
C'était votre biotope naturel. Et du coup,
Oui, voilà.
C'est votre vie.
Mais c'était, nous, c'était entre Gainsbourg et Duke Ellington. Alors, je sais pas si ça. Et puis aussi, la variété. Je pense que c'est quand même la pop culture, tout ça.
Très bien. Michel Gondry, on va parler de pop de culture et de pop culture juste après Maryland. C'est un morceau que j'adore, signé du groupe que j'adore aussi, The Good, The Bad and The Queen.
Still say goodbye, and if you are leaving, can you leave me my silver jubilee, my old flag, my dark woods, my sunrise? If you're leaving, can you please say goodbye, and if you are leaving, can
clowns as they roll into town, but their faces look tired and sad to me, and carry the terrible things they've seen all lost in a painting of a sky colored oil. In this merry land, you are my crows, my window rattlers, perfume valley criers, over dark ponds of merry England, the deep space echoes. Get on your mobile. What did you say, mobility?
Bad and the Queen avec le morceau Maryland, c'est extrait de l'album éponyme, éponyme n'étant pas le titre de l'album. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et nous sommes aujourd'hui avec un couteau suisse de la pop culture, mais qui est-il ? La réponse avec son pop portrait. Alors votre pop portrait, Michel, c'est votre portrait bien sûr, mais...
À base de pop, 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 pop.
Et c'est signé Charline...
C'est bon ?
Oui, top.
Aujourd'hui, nous recevons un homme qui a une chance inouïe, celle de parfaitement se souvenir de ses rêves, ce qui lui donne un avantage considérable en matière de création ciné. Moi, j'ai bien pensé à tenter un court-métrage dans lequel je tombe et après je me réveille, ou un autre dans lequel je fais une émission de radio avec Antoine Decaune, qui a en fait la tête de Ghislain Fontana, notre bien-aimé réalisateur, tout en parlant avec la voix de Jacques Chirac. Oh. Mais je ne suis pas certaine du nombre d'entrées assurées par ces géniales fictions, ni même d'un éventuel financier. Bref, notre invité a hissé ses rêves au rang d'art majeur avec Human Nature, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, La science des rêves, Soyez sympa, rembobiné, Microbe et Gasoil, et les rêves des autres aussi, en s'attaquant au Green Hornet, à l'écume des jours ou à la pensée complexe de Noam Chomsky, ou encore aux clips d'artistes allant de Björk à Métronomie en passant par Daft Punk, les White Stripes, Kanye West et les Stones. Il réalise une série dont le personnage central a beaucoup de mal avec la réalité et donc le fait d'être éveillé. Aujourd'hui, nous recevons Michel, roi des rêves Gondry. Quand je pense que moi, quand je ferme les yeux, il fait juste tout noir.
Mmh.
Nul.
Attendez, je teste. Je ferme les yeux. Ah oui, c'est
faut
tout noir.
Faut appuyer sur les paupières.
Faut appuyer sur les paupières.
Ouais,
très
on commence
fort.
À avoir des couleurs.
Mmh. Aïe.
Ah oui, ah oui, je vois plein de couleurs. Je vois plein de couleurs. Et vous, Michel, si vous êtes, si vous fermez les yeux, bah vous êtes à la radio.
Il y a des rémanences de l'image que j'ai vue avant de fermer les yeux. Il y a plein de petits spaghettis. Et en général, c'est des couleurs de orange-violet.
Voilà, la chance.
À quoi ça rêve, à quoi ça tient les rêves. Hein. Michel Gondry, j'ai une autre question indiscrète. Voulez-vous passer dans mon mixeur de pop culture ?
Oui, avec plaisir.
Bien, alors pour ça, passons à votre pop list.
Hop.
Nous vous avons demandé de choisir un livre, un film, une musique et une série. Culte, pour le livre, vous avez choisi Mon dernier soupir, l'autobiographie de Louise Bunuel, sortie en 82. Charline, un rapport entre ce dernier soupir et la journée mondiale de l'orgasme ?
Aucun. Enfin, je ne crois pas. C'est un livre que Bunuel définit comme semi-biographique, puisqu'il lui arrive de s'égarer, je cite, comme dans un roman picaresque. Il dit aussi, à l'approche de son dernier soupir, les souvenirs s'accumulent à notre insu, la mémoire est perpétuellement envahie par l'imagination et la rêverie. Alors, c'est étonnant.
Avant de nous en dire deux mots et justifier ce choix, est-ce que vous pourriez ouvrir le livre que vous avez devant vous, donc là, les mémoires de Louise Bunuel, au hasard?
Oui, voilà.
Et nous en lire une dizaine de lignes.
Alors, je suis un très mauvais lecteur. Hein. Alors, là, je vais vers page 63. Pour plaire à mon père,
je changeais de route et décidais de me diriger vers un diplôme d'ingénieur industriel qui comportait toutes les disciplines techniques, la mécanique, l'électromagnétisme, et demandait 6 ans d'études. J'ai réussi mes examens de dessin industriel, une partie de mes examens de mathématiques, grâce aux leçons particulières. Puis, pendant l'été, à Saint-Sébastien, je pris conseil auprès de 2 amis de mon père, dont l'un possédait une grande réputation d'arabisant à Saint-Palacios. L'autre avait compté parmi mes professeurs au lycée de Saragosse.
Bon, on est très loin du chien andalou, là. Qu'est-ce qui vous a bouleversé dans les mémoires de Louis Buñuel?
Je crois que c'est les disciplines techniques, la mécanique, l'électromagnétisme, et demander 6 ans d'études.
C'est ça, en fait, c'est cette spécialité.
Non, mais j'aime bien les autobiographies, parce que bon, bah, je suis réalisateur et j'aime bien les autobiographies de réalisateurs. J'ai beaucoup aimé celle de Roman Polanski et d'autres. Parce que, plutôt que de lire des écrits sur le cinéma lui-même, ça permet d'avoir une approche du cinéma de l'intérieur, d'une certaine manière. Ouais. Et puis bon, Buñuel, c'est quand même quelqu'un qui avait des phrases assez fortes. Par exemple, il disait, je ne sais pas si c'est dans le livre, mais c'est plutôt dans une interview, il disait qu'il n'en avait strictement rien à faire de l'opinion des gens par rapport à ses films, à l'exception de ses amis. Et que quand ses amis détestaient son film, il était encore plus content. Ça fait envie d'être comme ça.
Ce qui est aussi votre cas?
Ben non, moi je suis tout le contraire. Moi je suis très influençable et très dépressif quand les gens n'aiment pas mon film.
Ben, puisqu'on parle de cinéma, continuons avec votre film culte. Et ce film, c'est Le Voyage en ballon d'Albert Lamorisse. C'est un film de 1960. Charline, un film sur le football, j'imagine?
Absolument, Antoine. Enfin, je dis ça juste pour pas que vous contrariez. En fait, c'est plutôt de Béthune à la Camargue, la France survolée en montgolfière par un grand-père aéronaute inventeur et son petit-fils embarqué à l'insu de papy. Et les deux sont épaulés par un mécanicien qui suit leur trajet depuis le plancher des vaches.
Pourquoi ce voyage en montgolfière, Michel Gondry?
Dans ma jeunesse, et peut-être dans la vôtre, Antoine, le jour férié de l'école, c'était le jeudi, pas le mercredi. Alors, comme nos parents travaillaient, on allait quand même à l'école. Je crois que c'était l'après-midi, de toute façon. On restait l'après-midi. Et ce jeudi après-midi-là, ils avaient monté une tente en toile blanche dans la cour de récréation. Et ils projetaient des films en 16 mm. Et ils ont projeté Le Voyage au ballon. Et c'est le premier film que j'ai vu en entier.
D'accord.
Et, paradoxalement ou pas, c'est devenu mon film préféré. C'est-à-dire que je le regarde une fois tous les 2 ans. Et à chaque fois, souvent on est déçu quand on regarde les choses qu'on a aimées dans le passé. Et là, c'est le contraire. Je le trouve de plus en plus beau. Donc, c'est pas franchement narratif. C'est un couple, un grand-père et son petit-fils qui traverse le ciel de France en Z, en zigzag, en passant devant plein de paysages. Et c'est filmé dans les années 60. Les mines à Béthune et dans le Nord marchaient encore. On voit les danseuses en Bretagne avec les bigoudiennes. C'est
pour ça qu'on bigouden. Dit bigouden.
Bigouden, pardon. Et aussi, j'avais un attachement à mon grand-père qui était un inventeur. Donc il y a cette relation du petit-fils avec le grand-père qui est inventeur. Qui m'a touché. Et alors, un dernier truc, c'est que dans Microbe et Gasoil, un de mes 2 acteurs, Théophile Baquet, est le petit-fils de Maurice Baquet, qui était le mécanicien qui suivait dans la voiture en dessous.
D'accord.
Donc, était un personnage très particulier entre la musique et le cinéma.
Extraordinaire, Maurice Baquet.
Un poète.
Un poète et un excellent violoncelliste,
souvenez-vous.
Bien. Ouais. Ok. Bon, j'ai le film. Qu'est-ce qu'il me manque maintenant? Il me manque une série, si vous voulez bien. Alors, pour la série, vous avez choisi L'homme qui valait 3 milliards de Kenneth Johnson, ou L'homme de 6 millions. Hein, c'est le titre québécois. D'ailleurs, savez-vous pourquoi il passe de 3 milliards à 6 millions?
Voilà. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai choisi cette série. Parce que ça m'a toujours fasciné quand
étant petit, qu'en France, on disait l'homme de, qui valait 3 milliards, et qu'en aux États-Unis, c'était 6 billion dollar man. Non, 3 billion dollar man. C'est simplement le cours du dollar et le change qui font ça. Et puis bon, c'était une des premières séries ou films à traiter de la bionique, l'homme robot, etc. Et ce qui était génial, c'est que à chaque fois que il courait après quelqu'un, quand on voyait la personne qui courait devant lui pour s'échapper, il était en vitesse normale et tu coupais sur le plan, le contre-champ de l'homme qui valait 3 milliards.
Steve Austin.
Et c'était du ralenti.
Un petit extrait juste pour vous faire plaisir.
Steve Austin, cosmonaute. Un homme apparemment semblable aux autres, mais reconstruit de toutes pièces par les miracles de la technologie. Un homme amélioré, plus fort.
En un mot, le meilleur.
L'homme qui valait 3 milliards. Voilà, il me manque juste pour compléter cette pop list une chanson. Et cette chanson, Michel Gondry, bah c'est celle-ci. Comics, Discomics de Lio, c'était en 1980. Vous aviez 17 ans quand Lio a sorti Banana Split. Laissez-moi deviner, un petit impact sur la libido peut-être ?
Pourriez pas mieux dire. Je sais pas si je peux en parler comme ça, des émois amoureux solitaires se sont déroulés à l'écoute de cette chanson.
Mais c'était une de ces chansons, Amoureux solitaires, en plus, je crois, non ?
Oui, oui, j'ai pas fait exprès de la citer. Et la manière dont elle dit « yeah, yeah, yeah », je trouve ça incroyablement sexy.
Et même encore aujourd'hui, je vous sens... c'est la journée mondiale de l'orgasme en même temps. Bon.
Mais les émois érotiques sont intemporels.
Non, arrêtez avec ces phoques, je vous en supplie, Ghislain Fontanus. Bon, je résume Louis Buñuel, Le Voyage en ballon, L'homme qui valait 3 milliards et Lio. Je mets tout ça dans mon mixeur de pop culture et ça nous donne ça.
Steve Austin, cosmonaute.
J'ai réussi mes examens de dessin industriel grâce aux leçons particulières.
Un homme apparemment semblable aux autres, mais reconstruit de toutes pièces par les miracles de la technologie.
L'autre avait compté parmi mes professeurs au lycée de Saragosse.
En un mot, le meilleur.
Et Gondry, est-ce que mon mixeur de pop culture...
Il est super, qui c'est qui fait ça?
Ghislain Fontana.
Ghislain Fontanus, là en régie, avec ses petites mains.
Ah, bravo, toujours, hein.
Bravo Ghislain.
C'est chouette, ça va bien ensemble. C'est cohérent finalement.
C'est assez cohérent. Michel Gondry, dans votre poplist, on pourrait ajouter beaucoup de choses, comme par exemple le morceau Around the World des Daft Punk, dont le clip était réalisé par un certain Michel Gondry. Mais ça tombe bien parce qu'on va l'écouter tout de suite, le morceau, hein, pas le clip. On est à la radio.
I'm not afraid to
Around the World dans Pop 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 sur France Inter. C'est un morceau signé des Daft Punk. C'était en 97. Michel Gondry, vous voilà réalisateur, enfin vous l'étiez déjà, me direz-vous, de 6 épisodes sur 10 d'une série intitulée Killing, d'abord diffusée sur la chaîne américaine Showtime et actuellement sur Canal+. C'est l'histoire de Monsieur Pickles, héros d'émissions pour enfants dont la vie privée est complètement en train de s'effondrer, bande-annonce.
Let's take a trip to Pickle Barrel Falls.
Jeff Pickles has raised everybody's kids for 30 years, and he's reached out through the medium of television to love.
When you haven't got a clue, what do you do?
What do you do?
You only need to listen to the voice that's true.
The voice that's true.
Ans après Eternal Sunshine of the Spotless Mind, la série marque vos retrouvailles avec Jim Carrey, Michel Gondry, Jim Carrey qui est donc votre Monsieur Pickles. Comment se sont passées ces retrouvailles?
Très bien, on ne s'est pas vraiment perdu de vue. Et je crois que de m'avoir comme réalisateur l'a un petit peu rassuré pour se lancer dans une série télé, parce qu'il n'avait pas fait, bon, à part In Living Color il y a 30 ans ou 25 ans. On s'était bien entendu sur Eternal Sunshine, au fil des temps, la renommée d'Eternal Sunshine a grandi, ce qui fait que il était vraiment perçu comme un super bon acteur dans ce film. Donc il a pris peut-être confiance en lui par rapport à ça. En tout cas, il parlait souvent de moi dans les interviews. Et apparemment, il a quand même, il a été rassuré au point d'accepter de faire cette série. Et en démarrant la série, on est reparti pas comme on avait laissé, on s'était quitté à Eternal Sunshine, mais plus proche. Ce qui permettait de lui donner des directions de manière très directe, sans avoir à gérer son ego. Ouais. C'est le problème principal avec les acteurs, c'est qu'il faut leur parler d'une certaine manière, parce que c'est quand même des enfants, plus ou moins grands.
Surtout dans ce rôle-là.
Oui, oui.
Vous aviez vu entre-temps Jim and Andy, le documentaire qu'il a tourné pendant le tournage de Man on the Moon?
Ah oui, insupportable.
Et vous n'avez pas aimé le documentaire,
mais le documentaire est très bien, mais Jim était insupportable.
Mais est-ce que vous avez été à nouveau frappé par cette double personnalité dont vous jouez d'ailleurs beaucoup dans Killing?
Oui et non, parce que la double personnalité, c'est très bien à l'écran, mais de le faire dans la vie, c'est-à-dire le fait qu'il joue Andy Kaufman et qu'il faille lui parler comme si c'était Andy Kaufman tous les jours, ça doit être épuisant pour les techniciens, parce que on est forcé de jouer à... C'est comme si on vous forçait à jouer au Monopoly et vous n'avez pas envie. Pour moi, ça paraît insupportable. Je pense pas que j'aurais tenu.
Killing, la série a été écrite par Dave Holstein, qui avait notamment créé Weeds, et qui a inventé ce héros bloqué dans l'enfance de par son métier, qui refuse la réalité d'un présent douloureux, un héros naïf et bon. C'est une série sur l'enfance perdue avec un personnage finalement très gondrien. Je me trompe?
Je sais pas, c'est dur de savoir. C'est-à-dire que bon, la fabrication des décors, tout l'univers enfantin qui y allait avec son émission, ça m'a posé aucun problème. L'aspect torturé du contraste entre ce qu'il fait en public à la télévision et ce qui se passe dans sa vie privée, ça me convient aussi. Et c'est vrai que j'ai trouvé pas mal d'éléments dans le personnage de Jeff Pickle. Jeff Pickle.
Pickle aussi. Non, il picole pas.
J'ai trouvé des aspects dans lesquels avec lesquels je pouvais m'identifier. Donc, c'est vrai qu'il y a des choses en commun.
Est-ce que c'est compliqué en 2018, parce que c'est finalement pas tellement dans l'air du temps, de réaliser une fiction dans laquelle le héros est certes triste, mais extrêmement bon et bienveillant?
Je pense, mais en réalité, il y a un regard très critique de nous, du spectateur ou du technicien, du réalisateur par rapport à Jeff Pickle, parce que son côté est bon et bienveillant, on le tourne en dérision d'une certaine manière, parce que il est pas armé, il fonctionne pas dans la vie réelle, à part dans des petites ouvertures où là on s'aperçoit que finalement il avait raison. C'est assez rare, mais il y a des moments où finalement les choses se réalisent de la manière qu'il avait espéré ou annoncé. Et là, on se dit que bah, finalement, bah, il n'est pas aussi largué que ça.
Mais non, parce qu'en fait, dans la série, en dehors de sa sœur, peut-être, il est entouré de gens extrêmement cyniques, même pas capables d'empathie avec un homme endeuillé. On a un peu l'impression que c'est, bah, y a point de salut pour les rêveurs en ce bas monde.
C'est un petit peu vrai. Je sais pas, je pense que sa femme, elle a quand même une petite tendresse pour lui. Ouais. Mais c'est vrai, et c'est pour ça que Jim Carrey est excellent, parce que parfois il vous sort sa philosophie et commence à vous emmener sur son terrain un peu spirituel. Et là, on a un petit peu envie de se glisser discrètement et partir.
Michel Gondry, un héros triste, bon et bienveillant. On pense à Peter Sellers dans Goodbye Mr. Chance. On pense à Tom Cruise dans Forrest Gump. Tom Hanks. Est-ce que la mélancolie et la comédie font bon ménage?
Ah ben oui. Je pense que tous les gens qui font de la comédie... Enfin, c'est pas un secret, ils sont mélancoliques, beaucoup plus que les gens qui font des rôles dramatiques. Pareil pour les réalisateurs. Les réalisateurs qui font de la comédie sont beaucoup plus torturés que les réalisateurs qui font des films dramatiques ou des films d'horreur. Par compensation. Donc oui, la comédie et la mélancolie, ça va complètement ensemble.
Qu'est-ce que vous, Michel Gondry, vous avez de commun avec ce personnage de Monsieur Pickles?
Alors, ce que j'ai en commun, c'est que effectivement, j'ai gardé. Je réfléchis. Il faut me poser une question. Il faut que je la répète. Je suis habitué à faire des interviews où il faut répéter la question. Qu'est-ce que j'ai en commun? C'est-à-dire que je le dirige. Jim Carrey, je l'ai dirigé comme si c'était moi. Je vais chercher les raisons pour lesquelles il fait certaines choses, les motivations dans mes sentiments et dans ce que je ressens. Donc, au bout du compte, il y a de moi, mais en gros, moi, je pense que j'ai de la chance parce que j'ai des choses que j'ai ramenées de l'enfance, que j'ai utilisées dans ma vie professionnelle qui ont fonctionné. Donc là-dessus, j'ai peut-être plus de chance que lui. Maintenant, dans ma vie sentimentale, ça n'a pas trop fonctionné aussi bien que dans la vie professionnelle.
Alors, on ne veut pas le savoir.
Non, comment faire hein. Non, mais je pourrais vous dire le nombre de mes échecs.
L'émission n'y suffirait pas, je crois.
Non.
Comment vous êtes-vous accommodé du format série? C'est une grammaire plus plaisante ou plus contraignante que celle du long métrage?
Alors, il y a du plus et du moins dans la série. C'est intéressant, on ne connaît pas la fin. On signe sur 2 épisodes qu'on lit en script. Et puis après, il y en a 8 autres qui arrivent. Mmh. Et il peut y avoir des tournants où, par exemple, tant qu'il y a un épisode où je vois 2 gamins se battre à 100 et j'étais totalement contre. Alors j'ai trouvé un système, comme c'était un flashback, j'ai fait tous les fonds en photo et les personnages en vrai par-dessus. Donc il y avait un petit décalage qui faisait que c'était pas... Parce que quand les gens... Je déraille un peu, mais quand les gens montrent des choses, que ce soit érotiques ou alors violents, ils disent que c'est pour dénoncer, mais la réalité c'est que c'est pour se faire plaisir. N'importe quelle image créée par un réalisateur est... pour se faire plaisir. Donc ça m'a posé des problèmes. Mais il y a le truc principal qui m'a énervé, c'est que dans le cinéma, c'est le réalisateur qui décide, et dans la série, c'est le scénariste. Mmh. Et ça, j'ai pas réussi.
Bon, enfin, vous y avez pris goût, parce que vous avez signé pour la saison 2.
Oui, mais je me suis dit, bon, ok, je laisse tomber, j'accepte le truc, c'est comme une pub, mais comme tous mes copains ont dit que la série, et mes copines ont dit que la série était super, j'y retourne. Moi, j'ai aucune opinion sur si c'est bien ou pas, mais comme je vous disais, je suis influençable.
On se joint à vos copains et vos copines, elle est vraiment super.
Bon, ben voilà, je vais continuer à la faire.
Bah, c'est une bonne idée. Et la série est nommée 2 fois au Golden Globes, catégorie meilleur comédien et meilleure série, musicale ou comique. Est-ce bien sa place?
Il y a des moments musicaux. J'en ai un en tête avec toutes les marionnettes qui sont là pour convaincre sa fiancée de continuer son traitement de chimiothérapie.
Parce que ça pouvait jouer dans les deux catégories, hein. Ça pouvait aussi être dans la catégorie série dramatique.
Oui, mais je ne suis pas posé la question.
Ouais, ça vous
tout le monde m'a
l'état.
Dit super, c'est cool, t'es au Golden Globe.
Il y a deux nominations, ouais.
Et donc j'étais content. Je n'ai pas réfléchi plus que ça.
Vous regardez beaucoup de séries, ça vous intéresse?
J'ai du mal avec les séries sérieuses. J'ai jamais pu regarder Breaking Bad. J'aime bien les séries documentaires, j'adore ça. Genre Staircase, Making of a Murder.
Ouais.
Ça, c'est un côté un peu morbide. et j'aime bien les séries comiques, comme 30 Rock.
Ou alors il y a Mr. Show, mais ça c'est des choses qui ne vont pas parler aux gens, parce que c'est très obscur.
Mais est-ce que... Pardon, allez-y Charlie.
Un film comme Soyez sympa, rembobiné, ça ferait un matériau formidable pour une série télé.
Ouais, moi ouais, ce serait pas mal.
C'est une idée comme ça, hein, je dis ça. Ça me ferait hyper plaisir en fait.
Est-ce que le...
Non, c'est... j'ai pensé.
Est-ce que le traitement de la narration dans les séries, c'est quelque chose qui alors vous a séduit, oui, puisque vous venez de vous y coller et vous allez vous y recoller. Mm-hmm. Est-ce que ça a ouvert de nouvelles perspectives chez Michel Gondry, ça?
Je pense, j'aurais du mal à définir comme ça maintenant, mais c'est vrai que bon, la principale différence, c'est que dans un film, on n'a pas beaucoup de temps pour consacrer à l'exposition, le caractère des personnages, parce qu'il faut passer dans l'histoire en même temps. Mmh. Alors que dans la série, tout ça est plus facile. On fait l'exposition des personnages et après on peut délirer sur l'histoire à chaque épisode. Donc ça, c'est une grosse différence et c'est intéressant. Maintenant, j'ai quand même envie de faire des films aussi.
Mmh. Justement, à propos de films, où en êtes-vous de ce projet Ubik, l'adaptation du film?
Non, c'est tombé à l'eau, c'est impossible.
C'est fini ça?
Le problème de la science-fiction, c'est que, bon, par exemple, surtout Philip K. Dick, c'est des histoires qui sont assez absurdes. Si on veut que ce soit du Philip K. Dick à l'arrivée, il faut que ça reste absurde avec des choses qu'on peut pas expliquer. En plus de ça, ça coûte cher parce que il faut créer un univers qui n'existe pas à partir de rien. Bon, il y a pas. Il y a Alphaville, il y a d'autres exemples où il y a un côté minimal. Mais les deux, malheureusement, vont difficilement ensemble parce que pour créer un univers nouveau, inédit, il faut des sous. Et quand on fait une histoire abstraite, on n'a pas de sous. Mmh. Alors, c'est difficile. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de films, bon, peut-être à part Blade Runner, où il y en a un autre qui a été fait en animation, qui était assez bien. Les autres, ils deviennent des films commerciaux à gros budget. Mmh. Et finalement, il n'y a pas du tout l'esprit Philip K. Dick. Et puis, il faut aussi admettre, peut-être que je vais me faire des ennemis, c'est que c'est pas très construit quand même. Et donc, c'est pas facile à gérer. Donc, bon, puis ça a déraillé. Ça va
bon, en attendant le prochain long-métrage Gondry, on se consolera avec la série signée Michel Gondry, Kidding. Ça sera diffusé dans l'intégralité dans la nuit de Noël, la nuit du 24 au 25. Et c'est à regarder de toute urgence.
Oui.
Absolument. Et la bonne nouvelle, c'est que vous attaquez la saison 2. Bien. Vous savez faire plein de choses. On le sait, Michel. Est-ce que vous savez faire ça?
J'ai failli le faire tout à l'heure après vous.
Vas-y. Bah oui.
Parfaitement.
Mais
exécution parfaite.
C'est une référence à Des Proches et Thierry Leluron.
Mais bien sûr, vous l'avez répété.
Non, mais je suis assez fier de comment il est sorti. Oui,
il est magnifique. Bon, d'habitude.
Et vous savez faire le coup de l'eau qui tombe?
Non, allez-y.
Moi, je ne sais pas le faire, mais il y a des gens qui m'impressionnent. Non, c'est une fois.
Non,
on le fait une fois et après on bouge la bouche, bon, mais bon,
on répétera pour la prochaine fois. Alors, logiquement, ce pop là, c'est pour lancer les pop news, mais aujourd'hui, la pop news, c'est pour passer un coup de fil à Béatrice Edwige, fraîchement sacrée championne d'Europe avec l'équipe de France de handball et non pas handball. Allez, on se connecte. Bonjour Béatrice Edwige, vous m'entendez?
Je vous entends très bien, bonjour.
Ben, bravo d'abord. Première Merci question, beaucoup. Est-ce que vous savez tout twerker?
Non,
je vous rassure parce que j'ai entendu Martin Solveig dire ça à la footballeuse qui a reçu le ballon d'or.
Ouais, bah justement, elle a pas de quoi se vanter.
Bon, d'accord. Béatrice Edwige, c'est la première fois qu'une championne d'Europe s'exprime dans Pop Pop Pop. Est-ce que vous avez conscience de marquer l'histoire?
Ah, bah oui, bien sûr. C'est toujours un honneur d'être la première. Ah, voilà, on était les premières championnes d'Europe et là, la première à s'exprimer dans votre émission.
Bah oui.
C'est un plaisir.
C'est énorme et c'est énorme pour nous de vous avoir. C'est le parcours classique. Vous savez, après avoir été reçu à l'Élysée, vous passez par Pop Pop Pop. C'est quoi la suite? Le ciel et la limite?
Oui, que le ciel, hein. Il n'y a pas de limite. On n'a aucune limite avec cette équipe de France d'handball.
Alors Béatrice, vous déclariez ici même sur France Inter en novembre dernier au micro de Mathilde Munoz, il faut que le hand continue à être un sport scolaire. Est-ce que vous savez si cette requête a eu un écho? Et par ailleurs, une semaine après votre victoire, est-ce que vous savez si les clubs de hand ont enregistré une hausse d'inscription, comme ça arrive souvent après les grosses victoires?
Alors que le hand reste un sport scolaire, ça, j'ai aucun doute, parce que de toute façon c'est un sport qu'on pratique tout le temps, au collège, au lycée. Après, on aura, je pense, une fourchette plutôt en janvier. Pour le moment, on ne sait pas trop, parce que de toute façon, on n'est même pas encore vraiment toutes retournées en club. On est encore en vacances jusqu'au 26, toutes quasiment. Mais je pense que oui, en janvier, de toute façon, on va voir l'affluence. Et je pense que nos présidents nous feront des retours. Oui.
Béatrice Edwige, ici, vous le savez, on parle oui. de pop culture. Alors, je sais que les footballeurs avaient ce morceau de merde. Pour fêter la victoire. Et vous, c'était quoi?
Ah ben nous on nous a... Alors du coup, je n'ose pas le dire.
Allez-y.
Mais, du coup, on nous a identifié à la chanson d'Aya Nakamura, Dia Dia. C'est une chanson qui passait souvent à nos entrées sur le terrain. Et voilà, donc nous, on nous a beaucoup identifié à cette chanson-là, oui.
D'accord que le texte n'a rien à voir avec votre victoire, hein. Enfin, qu'on soit clair là-dessus.
On
n'a pas eu droit, nous, à cet honneur d'avoir une chanson.
Ouais. On parle bien de cette musique-là, là.
Oui,
Et alors, quel est le petit surnom traditionnel de l'équipe en ce qui concerne le vôtre? Est-ce que vous avez tranché?
Pour le surnom de l'équipe?
Bah ouais.
On a femme de défi. Là, j'ai entendu certains parler des conquérantes.
C'est pas mal, les conquérantes.
Les conquérantes, c'est bien. Honnêtement, c'est un surnom qui nous plaît beaucoup.
Eh ben, on va l'entériner aujourd'hui.
On va demander son avis à Michel Gondry, les conquérantes ou femme de défi?
Femme de défi.
Alors,
est-ce
on a
que je peux
un
dire...
Allez-y.
Moi, je fais du handball.
Non, je vous crois pas.
À l'école.
À l'école, oui.
Et notre équipe s'appelait les Guépards. Et moi, j'adore le handball parce que quand on saute au-dessus de la ligne, on va presque jusqu'au but, quoi. On est en suspension.
Exactement, c'est clair.
Merci Béatrice. Merci d'avoir ramené la coupe à la maison. Et bon courage pour les Jeux Olympiques.
Et enfin, juste le gardien de but, c'est du sacrifice, quoi.
Être gardien de but, oui. Parce qu'il faut vouloir accepter de prendre des ballons qui vont des fois à plus de 100 km/h.
Béatrice, Michel, je vais vous connecter tous les deux. Vous allez continuer cette conversation après l'émission. Bien, avant de continuer à parler de sport pop dans la suite de Pop 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 avec Étienne Carbonnier, écoutons un morceau des White Stripes dont le clip a été réalisé par un certain Michel Gondry. Bah oui, c'est Fell in Love with a Girl. Hell in Love with a Girl, c'est un morceau signé White Stripes, c'était en 2001 sur l'album White Blood Cells. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et nous sommes toujours en compagnie du réalisateur du clip, Fell in Love with a Girl, Michel Gondry, et vient de nous rejoindre celui qui a rendu la transpi pop, Étienne Carbonnier. Bonjour Étienne Carbonnier.
Bonjour Antoine.
Étienne, est-ce que vous savez twerker? Je demande, c'est pour équilibrer.
Moi, je suis pas très bon dans twerk. C'est pas trop mon truc.
Étienne okay. Carbonnier, vous présentez lundi transpi, mardi transpi, mercredi. Enfin bon, bref, tous les jours transpi dans Quotidien, chaque soir sur TMC. Et vous vous apprêtez à présenter mercredi prochain transpi l'année des champions. Alors première question, quel est votre champion de l'année?
Nous, on n'a pas réussi à en choisir un. On en a choisi plein, notamment en fait tous les personnages qu'on allait rencontrer dans l'année. Et donc bah là, en l'occurrence, on aura par exemple les champions du monde de bridge de moins de 20 ans. C'est des petits gamins qui jouent au bridge. Donc il n'y a pas que des vieux qui jouent au bridge. Et qui sont champions du monde et qui sont super cool. Donc il y a eux, il y a aussi... vous connaissez le Béour ? Vous voyez ce que c'est le Béour ?
Oui, très bien. Ouais. Les combats médiévaux.
Exactement. Ah, ouais.
Ah ouais. Je crois que vous avez pas mal de points communs en fait en termes de fréquentation de région.
Non, j'adore. Ah ouais. Tourner un sujet sur le Béour.
Eh ben exactement. On a fait un sujet sur le Béour et on a les champions de France qui sont aussi champions du monde, je crois, en 55.
Ils sont complètement timbrés.
Et ouais, c'est un peu des malades. C'est des mecs qui font tous.
Ils se battent en armure, Michel. Ils mettent des armures médiévales, mais des vraies armures qui pèsent 20-25 kilos.
Ils doivent se faire tomber des chevaux.
Ouais, ouais, ouais. Non, mais ils observent les règles de combat médiévales.
Ouais, exactement.
Et ils se mettent sur la gueule.
C'est assez impressionnant, ouais. Donc il y a plein de champions, quoi.
En vrai, votre sport de prédilection, c'est quoi, Étienne ?
Bah, moi, c'est plus le football.
Le foot.
Ouais.
Mmh. Et votre image de l'année ?
Mon image de l'année ?
Oui, si vous devez en regarder
sport.
Une. Oui, bah oui.
Bah, je pense que ça va pas être très original, mais ça va être les Bleus qui soulèvent la Coupe du Monde. Mm-hmm. Je pense que tout le monde répondra à ça.
Michel, oui. Vous répondrez ça, vous aussi ?
Oui. J'étais à Las Vegas avec mon frère, on tournait une pub. On a regardé sur l'écran.
Il regarde ça.
Mais il y a un truc, dans ce que vous venez de dire, il y a un truc qui me scie, mais qui est comme ça, c'est que les échecs, par exemple, ou le bridge, sont considérés comme du sport.
Nous, on considère, après, c'est le parti pris c'est le parti qu'on a choisi de prendre. C'est pas très français, ça.
On a compris, quoi.
et donc, on voit vraiment le sport au sens très, très large. Donc, effectivement, le bridge, on peut considérer que c'est pas un sport dans le sens où c'est pas physique. Après, à partir du moment, je pense, où il y a de l'entraînement, que
les mecs, il y a une confrontation.
Ouais, il y a une compétition, de l'entraînement avec des entraîneurs, des trucs. Je pense qu'on peut le considérer comme du sport.
Alors ouais, personnellement, moi, j'ai adoré le marathonien qui passe la ligne d'arrivée, la butte à l'air, sans se rendre compte qu'il avait craqué son short et son slip. Manifestement, c'était dans mardi ou mercredi transpi. Elle était bien cette image.
Oui, elle était très très bien. Et cette année a aussi été l'occasion, Étienne Carbonnier, de rencontrer les 10 champions du titre de l'émission, Kylian, Didier, Zinedine. Une interview dont on sent qu'elle vous a rendu gentiment fébrile. Ouais. Forcément, Zidane, c'est un dieu du foot et c'est aussi un dieu du taquet.
Merci beaucoup. T'en prie.
Merci.
Et peut être désolé pour Paris.
Quand on est supporter du PSG, se faire chambrer par Zizou, est-ce que c'est supportable ?
Exactement, il n'y avait aucun problème. Je pense qu'il peut, Zidane, il peut me dire à peu près tout ce qu'il veut.
Ah ouais, donc votre amour du club s'arrête dès que c'est Zidane qui vous parle.
Exactement.
Les supporters apprécieront, bravo.
Et bah ouais. Non, ça, il n'y a pas de problème. Je pense qu'ils comprendront. C'est Zidane.
Bien, bon, on est à un autre niveau. Quand
bah, ça dépend, supporte le PSG ou pas, quoi.
Bon, avec Transpi, l'année des champions, vous allez rembobiner 2018 avec les compétitions les plus folles de danse de country, de Scrabble. Vous allez évidemment revenir sur le parcours des Bleus. Mm-hmm. Vous parlez de Didier Deschamps qui s'est fait refaire la
non,
ou pas
c'était, non, ça, c'est, on l'a fait ce qu'il veut. C'était un peu récent. Donc,
Alors, ceci étant, vous avez passé une année à brocarder sa manière de parler, sans les X, apparemment, il n'y a pas cette lettre dans son alphabet. Mais alors, il n'est pas le seul dont vous vous moquez aussi gentiment, Pascal Duprat, l'entraîneur de Toulouse, en fait aussi les frais. Vous le glissez régulièrement dans des épisodes des Feux de l'amour. Moi, je vois là un hommage à Soyez sympa, rembobiné, un peu les films suédois à la Michel Gondry. Ouais. Quel retour est-ce que vous avez de tous ces sportifs sur votre transpi ?
Je crois qu'ils aiment beaucoup. Bah, Pascal Duprat, par exemple, était venu sur l'émission et c'était marrant. Il avait vu les trucs, il trouvait ça hyper cool. Je pense qu'à chaque fois, ils comprennent qu'il n'y a aucune méchanceté derrière et qu'on fait ça surtout pour rigoler.
Mmh. Il y en a quelques-uns qui n'ont pas tellement d'humour non plus, ça existe.
Mais... Ouais, effectivement, il y en a qui ne comprennent pas ça. Mais bon, ça, c'est à la limite, tant pis, si on doit s'arrêter à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui.
Le rire est l'ennemi de la volupté.
Vous savez ça ? Non, mais de toute façon, je ne comprends même pas cette phrase. Alors... Non, mais ceci étant, vous n'en êtes pas encore au stade où on vous interdit d'entrer dans les compétitions parce que
pas encore.
Vous êtes voilà.
Pas encore. Même si il me semble que récemment on a eu des soucis pour je sais plus quelle compétition d'ailleurs où ils étaient pas hyper contents qu'on soit là. Mais
les manifestations hippiques généralement vous y
allez
très très
exactement.
Fort.
Exactement. Je crois que il me semble que c'était
les
un
gens
peu
qui
comme
boivent
ça.
Les chapeaux tout ça.
Et je crois que c'était exactement pour ça, c'était un grand prix de hippique. Ils voulaient pas trop qu'on soit là.
Chez Gondry, le sport c'est important pour vous ?
Ouais. En tant que spectateur.
En tant que spectateur.
Alors moi, je regarde beaucoup sur YouTube et on voit que des buts. Alors on a l'impression que les matchs, il y a vachement de buts. Et puis après, on les regarde et on voit que non, mais ça se mérite un but au foot. Il y a plus de tension comparé au basketball où il y a des. Mais moi, mon joueur préféré de tous les temps, c'est Johan Cruyff.
Ah, Johan Cruyff, mais
je suis... L'élégance, le style, le look.
Débat, Étienne, c'est qui pour vous ?
Bah, moi, j'adore les Hollandais aussi. Je trouve que c'est des joueurs toujours assez chic et élégants. Moi, j'aimais bien Dennis Bergkamp parce que c'est un peu plus récent. Mais après, moi, c'est Zidane qui est vraiment marqué.
Charline.
Et vous, Antoine, votre joueur de foot préféré ?
Pelé, moi.
Ah ouais, ah, ouais. L'escroquerie. Pardon.
Quoi, Pelé ?
Non, bien sûr.
Pelé, il avait fait une pub pour la télé où il disait « Smash, smash, le sport, c'est formidable. » Pelé. Il est bon joueur, Pelé, on est d'accord?
Ah, bien sûr. Oui.
Ah, enfin oui. Non?
Oui, ouais, super.
C'est ce que j'ai dit.
Ouais.
Ne regardez pas non, comme ça.
Rien, je vais poser la question à vous.
Mario Yepes.
Ah, c'est vrai. Ouais. Un Nantais, puis parisien. Et
uniquement parce qu'il était très beau. Hein. J'avoue que ça me...
Et Messi, alors?
Bah, si, c'est un immense joueur, ça. Je pense que tout le monde le dira. Après, il manque peut-être un petit peu de charme, je trouve. J'aime bien que les joueurs aient un peu... Il est peut-être un petit peu trop
effacé. Il marque trop de buts, peut-être, c'est ça.
Non, mais c'est un joueur exceptionnel.
Moi, je vois ça tout à fait de l'extérieur. Je trouve que c'est une très bonne nouvelle d'aborder le sport en s'amusant, avec un esprit un peu léger et ludique comme ça. Parce que c'est traité toujours avec beaucoup, beaucoup de sérieux, beaucoup de convictions. C'est un peu,
Je suis d'accord.
Un peu lourd, non?
Ouais, je suis d'accord. Et je pense que c'est vraiment... ce que nous, on essaye de faire et la manière dont on voit le sport, et ce que je disais, c'est pour ça qu'on le voit aussi de manière très large. Mais il faut aussi en rigoler, surtout nous, en plus, dans l'émission. On est souvent, par exemple, quand on parle d'un match de foot, on arrive 24 heures après le match. Donc ça n'a aucun sens de retraiter, de décrire les actions, décrypter. Déjà, moi, je ne suis pas journaliste sportif, c'est pas mon rôle. Et en plus de ça, maintenant, à la seconde où le match est fini, il y a déjà un best-of, un résumé du truc. Oui, donc, moi, je vais apprendre rien du tout aux gens, donc je vais pas leur donner le score.
Vous voyez comme un journaliste, comme un humoriste,
entre les deux, j'ai l'impression.
La frontière.
Parfois, ouais, exactement. C'est que par moment, quand on va faire un sujet sur le Béhour, par exemple, ça peut s'apparenter un peu à un petit article de presse PQR, un peu quoi, de presse régionale. Mais en même temps, nous, on va essayer justement d'arriver par le côté un peu rigolo.
Alors moi, j'ai une question d'ordre technique et santé. C'est-à-dire que vous avez quand même double charge dans le quotidien, tous les jours. Donc deux ce magnéto sur le sport et d'un autre magnéto sur la télé. Est-ce que quand arrive à la fin de l'année, vous avez les yeux qui saignent?
Vous avez vu ma gueule.
Franceinter.fr pour voir les images de Étienne Carbonnier.
Je suis pas très beau à regarder.
Vous vous reposerez pendant les fêtes. Merci Étienne Carbonnier. Votre transpi l'année des champions, c'est mercredi à 21h sur TMC. Vous le savez, c'est bientôt Noël et aujourd'hui, je vais vous offrir un cadeau. Il y a un an, jour pour jour, nous vous faisions découvrir dans cette émission sosie de Robert De Niro dans Hit. Un sosie, mais surtout un chanteur, et il avait le projet de sortir un vinyle. Et grâce à nous, mais surtout grâce à vous et à votre participation, ce vinyle a vu le jour. Et aujourd'hui, je ne le vois pas, il va arriver dans le studio.
Sosie de Robert De Niro
dans Hit. Et aujourd'hui, il nous offre un live dans le studio de Pop Pop Pop. Ce sera juste après le magnéto, le grand n'importe quoi d'Alexandre Verret, comme chaque vendredi. Écoutez.
Un ballon de baudruche. Un ballon de baudruche. Un ballon de baudruche. Enculé.
L'indice CAC 40 a perdu 0,01% à 5452,73 dans un volume d'échanges moyen de 3,5 milliards d'euros. La veille, il avait fini dans recul de 0,38%. La cote parisienne a ouvert. J'arrive, maman. J'arrive.
Ping pong circulate.
N'importe quoi, n'importe quoi.
C'était l'allocution du président de l'association des producteurs de rosé du Sud-Ouest.
N'importe quoi.
Bon sang, mais bon sang.
Qu'est-ce qu'il fait noir dans ton cul?
Le grand n'importe quoi. Merci Alexandre Verret. Et pendant ce temps, je vois que Sosie de Robert De Niro dans Hit s'est installé sur la scène de Pop Pop Pop. Bonjour Sosie de Robert De Niro dans Hit. Vous allez bien?
Ça va, impeccable. Et toi? Adieu les zigotos.
Vous avez arrêté de fucker my wife?
Je suis en face de toi là. Pose-toi plutôt la question. Qu'est-ce que fait Luc Besson en ce moment?
Bien, vous êtes prêts? Après mon pop, c'est à vous. Vous êtes prêts? Attention. Et parti.
Chaleur torride.
Oui, c'est l'été.
Cocktail glacé.
Petit déjeuner.
Torride heat.
Welcome to LA.
Frozen cocktail.
Salut, breakfast.
Jamais de sueur froide. Quand je monte au casse-pipe, je m'imagine à poil. Je déguste un iced tea. Maliba charavoile. Langoustine et caviar. T'es glacé. Chaleur torride, cocktail glacé,
during heat. Frozen cocktail, chaleur turbine, cocktail glacé, during heat. Frozen cocktail.
Ça va toujours, Michel? T'aimes peu déraper. On oublie qu'il est ornette, et quand est-ce que tu fais un film avec des couilles et des flingues? Allez, pour toi, ça. Je passe aussi le bonjour au frère Nino, l'oubli que le coq mort. Jim Volvo, ménage ta caisse un peu bonhomme. Christian Bolognaise, on se voit bientôt. Et aussi au petit Henri Fine qui vient de naître. Quand tu seras vieux, mon gars, il n'y aura plus de viande, nous vivrons en Sibérie. On ira pêcher, Rito. Toi et moi, même dans la main.
You fuck my wife.
Comme l'eau et le thé dans les fast food. Ma vie, je la mélange à la poudre. La poudre à canon, bien sûr, Michel. Jamais de cocaïne. Je me shoot à l'adrénaline. Et la concurrence est déclassée. Tandis que je sirote mon thé glacé. Et comme Vincent Hanna le dicte, je suis sosie de Robert De Niro dans Hit.
Jusqu'à
Hit. Ça va te faire, Michel? Impeccable. Salut à tous les imposteurs, Nick Latrick, Tom le bonhomme. À bientôt, on se reverra au ballon. T'aimes ça les ballons, toi, non?
Bravo! Déglacé, c'est un morceau de sosie Robert De Niro dans Hit, dernier live.
Il faut absolument.
Oui, Michel Gondry.
Il faut absolument faire un remix avec la voix de Aïssa Maïga, qui serait parfaite pour un pont.
Avec la définition de la pop culture, absolument.
Sur une histoire de cocktail.
Voilà votre mission. Ouais. Bon, merci sosie de Robert De Niro dans Hit. J'en profite pour annoncer que vous serez à Andernos-les-Mains le 31 décembre prochain, au restaurant.
Le Fichette avec Christian Bolognaise et son orchestre.
Amis d'Andernos-les-Bains, soyez là. Merci Michel Gondry. Kidding, votre nouvelle série est diffusée sur Canal+, le 24 décembre et ensuite sur Canal+, série. C'est à ne rater sous aucun prétexte. Merci Étienne Carbonnier. Rendez-vous avec vous mercredi prochain pour Transpi, l'année des champions, à 21h sur TMC. Et merci à l'équipe de Pop. Ghislain, Gratte-moi l'anus à la réalisation, à la technique, Raphaël Rousseau, Aurélien Esvon, notre rédacteur en chef, Claire-Sophie Collet, Hugo Combe et Simon Arestat, nos attachés de production. À la programmation musicale Djoubaka et Colin Cruel, notre stagiaire. Lundi, dans Pop, on vous propose de réécouter l'émission avec JCVD. Mais avant demain, si vous avez aimé l'émission, retrouvez-la sur franceinter.fr. Si vous êtes un Jeunes 3.0 ou un vieux à la pointe, suivez-nous. Ou plutôt, comme disent ceux qui font des tutos grand écart sur YouTube, abonnez-vous à...
Aïe, ça fait mal.
Et suivez-nous sur les internets, comme disent les millennials. 3615 Pop sur Instagram et Twitter.